français. Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Léon Pyrénées au programme des coureurs de ce Tour de France 2014. 17e étape aujourd'hui, donc entre Saint-Gaudens et Saint-Lary-Pladadé. C'est l'une des étapes reines de ce Tour de France, avec pas moins de 4 ascensions, 3 classées en première catégorie et l'arrivée hors catégorie au Pladadé tout à l'heure. 124 km seulement à parcourir. Ce sera court, nerveux et probablement violent dans les efforts. On va se régaler tout au long de l'après-midi dans l'intégral Tour sur RMC jusqu'à 18h avec toute l'équipe que je vais saluer. Ils sont là, ils sont en pleine forme pour vous faire vivre cette étape dont on attend beaucoup. On va commencer par la moto RMC puisque Georges et Marco sont déjà dans la course. Ils sont pas encore dans les montagnes, hein, on n'est pas encore dans les Andes, mais on se rapproche tout doucement de la première difficulté du jour. Salut Georges.
Salut Christophe, bonjour à tous. Oui, on n'est pas encore dans les montagnes, mais on y est presque.
On y est presque, on est dans la ligne droite qui amène vers la première difficulté du jour. Ce sera le col du Portillon, la carte postale dans un instant avec Georges. Je continue mon petit tour des effectifs avec évidemment notre druide Cyril Guimard, il est là avec nous.
Oui, bonjour à tous. Le druide est toujours là, surtout pour une étape comme aujourd'hui.
Ah oui, une étape comme ça, on l'a coché, ça fait longtemps qu'on la regarde. Cette étape, on s'en délecte d'avance, hein, ça va être génial normalement, Cyril.
Déjà celle d'hier en termes d'entrée c'était succulent, hein.
Ouais,
aujourd'hui normalement là ça va être le feu d'artifice.
Alors par rapport à celle de demain, tu dirais qu'elle est plus dure, un peu moins dure que celle de
demain?
Ah
non, elle est plus difficile que celle de demain. Oui,
d'accord.
Bah vous savez, en 75 km vous avez 4 cols, vous avez 41 km d'ascension, seulement 34 de descente. Donc ça veut dire que soit vous êtes debout sur les pédales, soit vous êtes debout sur les freins.
Effectivement, donc aujourd'hui ça va être terrible. Fred Adam est également avec moi, salut Fred.
Bonjour à tous.
La 17e étape a donc débuté il y a très peu de temps, c'est une étape courte, je le disais, 124 500 km, c'est la plus courte de ce Tour de France qui vient au lendemain de l'étape la plus longue. Mais comme le disait Cyril, il y aura beaucoup de cols. Ça ressemble d'ailleurs étrangement à un peigne, l'étape d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Fred, on va faire un premier top course car il se
passe. Pour l'instant, on est sur le manche. Hein.
Pour l'instant, on est sur le manche du peigne, mais t'inquiète pas, la première manche du peigne ne va pas tarder à arriver. Allez, on va faire le premier top course de la journée puisque c'est parti et c'est parti très fort dans cette 17e étape.
RMC Top Course.
En route pour le paradis, parce qu'au niveau paysage aujourd'hui, au niveau ambiance, au niveau odeur, au niveau météo, tout est au vert aujourd'hui. Et c'est magnifique d'arriver ici au cœur des Hautes-Pyrénées, baigné de soleil, en route pour le paradis ou pour l'enfer aujourd'hui, car effectivement, c'est la deuxième étape dans les Pyrénées et elle s'annonce corsée, rude, même si elle est courte. 20 km, un peu plus, même 24 km parcourus depuis le début. Part tout à l'heure de Saint-Gaudens et dès le premier kilomètre, un coup de fusil de la part de l'un des attaquants d'hier, Cyril Gauthier, le coureur français breton de l'équipe Europcar. Il est accompagné à l'avant de la course depuis le départ de cette étape de son coéquipier japonais Yukiya Arashiro. Les autres français sont Blel Kadri pour l'équipe AG2R La Mondiale, Nicolas Hédet pour l'équipe Cofidis et puis notez la présence du vétéran allemand Jens Voigt, Sergio Paulinho le portugais, un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo est là, Tom Hilteslachter le néerlandais de l'équipe Garmin, déjà échappé hier, complète ce groupe, ainsi que le champion de Suisse, Martin Helmiger, après 25 km d'échappée. Ces 8-là comptent une minute seulement d'avance sur un peloton en file indienne dans la vallée. Un peloton notamment emmené par les Katyusha de Joaquin Rodriguez, qui a perdu le maillot à poids de meilleur grimpeur hier et qui voudrait se lancer aujourd'hui encore, visiblement, à la chasse au point dans la montagne.
Voilà, une minute d'avance seulement pour nos 8 échappés. On a l'impression que le peloton ne veut pas leur laisser trop d'avance aujourd'hui. Comment expliques-tu cela?
Oh, cela est très simple. Frédéric vient d'ailleurs de l'évoquer. C'est la chasse aux petits pois rouges. Puisqu'il y avait au départ de l'étape hier Majka et Rodriguez qui étaient à égalité de points avec 88 points, sauf que Majka a pris un point hier et qu'il se retrouve donc leader avec 89 points et que lorsqu'on sait que les points seront doublés à l'arrivée au Pladadé, il faut absolument que Rodriguez ou Majka prennent des points dans cette étape et surtout sur les trois premiers cols, car ils ne sont pas sûrs d'être là dans l'explication finale de la montée du plat d'Adet. Et c'est la raison pour laquelle on laisse pas cette échappée partir, parce que si elle part, ben il y aura plus de points à prendre pour Rodriguez, et Rodriguez, lui, il veut en mettre dans sa hotte.
Alors ça veut dire, Cyril, que les échappés ont très peu de chances d'arriver et échapper, hein, finalement, et de franchir la ligne en vainqueur, et qu'a priori le vainqueur sera plutôt à choisir parmi les grands favoris du général ou parmi les grands favoris de ce maillot à poids.
Eh bien écoutez, dans ce Tour de France, on n'écrit jamais la même pièce deux jours de rang, et que si hier une échappée a pu prendre une vingtaine de minutes, aujourd'hui ça ne sera pas le cas. Donc il y a les équipiers des grimpeurs qui ne veulent pas laisser cette échappée partir, parce qu'ils ont l'intention de sortir dès le premier col pour s'expliquer. Donc le vainqueur n'est vraisemblablement pas dans cette échappée. Et quand on regarde la physionomie du peloton, j'allais dire la gueule du peloton, eh bien c'est un long, une longue file indienne.
Eh oui, alors attention à ne pas se retrouver piégé, Cyril, même si évidemment les étapes de montagne, les coups de bordure sont beaucoup plus rares, et il n'y a pas trop de vent en plus aujourd'hui.
Non, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Hein,
donc il n'y aura pas de...
Mais il y en aura beaucoup derrière.
Eh oui, oui, très bien. Allez, on va retrouver la moto RMC avec Georges Quirino et Marco, qui vont nous faire une petite carte postale. Et il y a des choses à dire dans cette carte postale.
À la rencontre de vos régions avec ERDF. ERDF et l'électricité vient à vous.
Et elle est belle, là. Région des Hautes-Pyrénées, comme le disait Fred, bienvenue au paradis, c'est magnifique Georges, raconte-nous un petit peu ce que tu vois, décris-nous ce paysage idyllique.
Non, on a débuté à Saint-Gaudens où on a réalisé nos premiers kilomètres le long de la Garonne qui était sur notre droite, et là nous avons basculé à gauche, et face à nous eh bien s'élèvent les montagnes pyrénéennes juste devant nous, alors que l'on est à 5 kilomètres du sprint intermédiaire à Saint-Béat. On est vraiment baigné sous le soleil depuis que Christian Prudhomme a agité le drapeau du départ. Il fait 27 degrés aujourd'hui sur la route du Tour. C'est un peu plus chaud qu'hier, hein, au départ. Je peux vous assurer que ça ressemblait presque à la fournaise au niveau des bus des équipes, mais forcément ça se voit sur la route que la chaleur est au rendez-vous. On a sorti les bobs obligatoires de rigueur aujourd'hui et on se dirige tout droit vers les premières difficultés. On a le groupe d'échappés qui est juste derrière nous, avec notamment Belkadri et son casque jaune, et un petit peu plus loin on voit le peloton en file indienne. Ça va déjà très vite sur ce début d'étape où on est sur des routes assez larges, mais et bien évidemment le plus beau de la carte postale, ce sera quand on va s'élever tout à l'heure et que la température va baisser dès eh bien, les premières pentes du col du Portillon. Évidemment, on passera la frontière espagnole aujourd'hui avant de revenir en France. Ensuite. Ah,
ben voilà, j'en connais un qui va se donner à Corjoie. Tu vas pouvoir nous commenter l'étape en espagnol tout à l'heure, hein, Georges. Je compte sur toi.
Si, podemos hacerlo. Si, podemos hacerlo.
Qui a été déprimé après l'abandon d'Alberto Contador, mais qui a retrouvé des couleurs. Évidemment, tout le monde en a des couleurs sur ce Tour de France. Fred, on se régale tellement. Oui. Depuis le début de ce tour que franchement on ne s'ennuie pas une seule journée. On a l'impression d'être parti hier ou avant-hier de Leeds, et pourtant on est à 4 jours maintenant de l'arrivée sur les champs.
Oui, oui, et Georges sera prêt pour la carte postale, des cartes postales optimisées de jour en jour. Je pense qu'en quatrième semaine il nous en fera de très belles depuis la plage, les doigts de pied en éventail. On est en route pour le paradis. On aura un petit aparté aujourd'hui, un aparté très triste. On va dédier cette étape à l'un des suivants du Tour de France qui a perdu la vie ce matin. C'était l'un des techniciens de l'équipe Orange, vous savez, qui installe pas mal d'infrastructures sur la route du Tour. C'était au village départ à Saint-Gaudens. C'était Christian Martin qui nous a quittés à 55 ans. Victime d'une crise cardiaque, ça peut arriver partout, c'est arrivé sur la route du Tour, et c'est vrai que lorsque l'on suit ce magnifique événement pendant 3 semaines, on est forcément très touché par la perte de ceux que l'on considère comme l'un des nôtres sur ce mois de juillet.
Effectivement, puisque les suiveurs du Tour de France représentent une grande famille comme ça qui se déplace tous les jours pendant 3 semaines, et c'est vrai que c'est évidemment très triste, et on pense très fort à sa famille. Allez, 95 kilomètres de l'arrivée, on se rapproche donc de la première difficulté du jour. On va évoquer les difficultés de cette journée, Fred. Les cols ne sont pas très longs, mais ils sont très pentus et ils peuvent faire énormément de différence aujourd'hui dans cette 17e étape.
Oui, ce sont des cols pyrénéens avec tout ce que cela sous-entend. Un col pyrénéen, c'est un col plus abrupt en général qu'un col des Alpes. Ils sont plutôt irréguliers en général et posent de vrais problèmes aux non-grimpeurs et sont un vrai bon terrain de jeu pour ceux qui aiment notamment les ruptures de pente. On l'a vu notamment hier avec Thibaut Pinot qui a réalisé un festival lors du port de l'ascension du port de Balès. Les grimpeurs vont se régaler, mais les autres vont souffrir aujourd'hui. Première difficulté dans quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres maintenant. Le col de Portillon, 8 kilomètres d'ascension à 7% de déclivité. Derrière, on redescend vers Bagnères-de-Luchon où il y aura la zone de ravitaillement. Bagnères où Michael Rogers, l'Australien, s'est imposé hier sur la 16e étape. Depuis Bagnères, on montera le long col de Perressourde, 13 km d'ascension à 7% de moyenne. Ensuite, descente vers Loudenvielle, puis montée de Val-Louron-Azay. On est là à près de 1600 mètres d'altitude. Un troisième col classé en première catégorie avec un pourcentage moyen à plus de 8%. Et puis, la descente vers Saint-Lary-Soulan. On aperçoit d'ici d'ailleurs, depuis le plat d'Adet, on aperçoit Val-Louron-Azay au loin. Il faudra descendre dans la vallée de l'Or qui est baignée de soleil aujourd'hui. L'Or A-U-R-E et non pas O-R. Puis cette montée finale de plus de 10 km à plus de 8% de moyenne vers le plat d'Adet, classé hors catégorie. Menu particulièrement indigeste aujourd'hui. Il ne faudra pas vivre un jour sans.
Ah non, surtout pas de jour sans. On va en parler d'ailleurs du jour sans hier de Romain Bardet dans quelques instants. Mais on va retrouver la moto RMC Georges Quirino puisque les échappés viennent de passer à Saint-Béat. Saint-Béat, rappelez-vous, de l'actualité, c'était il y a un peu plus d'un an. Les terribles inondations, la Garonne qui avait débordé et des torrents de boue qui s'étaient abattus sur la ville. Aujourd'hui, tout a été évidemment réparé et le Tour de France passe dans cette ville avec le sprint de la journée, Georges.
Oui, à Saint-Béat, effectivement, on vient de passer la cité du marbre avec les 8 coureurs de tête. Alors on est juste devant parce que l'écart n'est pas assez important pour l'instant avec le peloton qui suit juste derrière. On a vu Blaise Cadry avec son casque jaune présent aux avant-postes. Le groupe de tête étiré et qui voit sur ces longues lignes droites souvent. Et bien le peloton derrière en ligne de mire. On s'attendait peut-être à une réaction au niveau du sprint intermédiaire, mais ce n'est pas arrivé. Pour l'instant, ces 8 hommes-là sont toujours seul devant, toujours sous le soleil ici, alors que l'on se prépare dans quelques instants eh bien, à passer la frontière pour aller de l'autre côté des Pyrénées en Espagne.
De l'autre côté des Pyrénées, un petit passage en Espagne cette année, donc ce sera très court, mais on va rendre hommage à tous les grands champions espagnols. Évidemment, il y a beaucoup de supporters espagnols, même si, évidemment, Fred, il y en a un peu moins que dans les grandes années des grands champions espagnols. Il y a beaucoup moins de supporters basques aujourd'hui sur les cols pyrénéens.
Oui, peut-être un peu plus demain vers Otacam, on se rapproche un peu plus de l'ouest, on verra sur la montée d'Otacam, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette fameuse équipe Euskaltel, devenue Euskaltel-Euskadi au fil des ans. Il n'y a plus ces beaux maillots orange fluo et c'est vrai qu'on a l'impression d'un point de vue visuel qu'il y a moins de supporters basques, mais ils sont tellement amoureux de vélo les Espagnols, spécialement côté Pyrénées, qu'ils seront là, c'est sûr, aujourd'hui sur les 4 difficultés de la journée. On entend évidemment depuis 24 heures de plus en plus parler espagnol. C'était le cas hier à Bagnères-de-Luchon. D'ailleurs, la majorité des cyclos qui sont montés ici, qui ont accompli les 10 km de la montée finale pour venir applaudir les coureurs, les 169 rescapés du Tour aujourd'hui ici à Plat d'Adet, parlent espagnol. Les traits aussi sont très hispanisants, ibériques. Ça fait du bien d'avoir de nouvelles sensations quelques semaines après avoir pris le départ, on s'en souvient, d'Angleterre. Le Tour de France nous fait vivre et ressentir plein de choses différentes.
Oui, on est passé également pas loin de la Belgique. Il y a même eu un départ d'étape en Belgique. On est passé pas loin de la frontière suisse. Et aujourd'hui, nous sommes tout proches de l'Espagne. Cyril, un petit mot justement sur les coureurs espagnols. C'est vrai que pendant des années, ils ont écrasé le vélo. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, même si Valverde, on le rappelle, est tout de même le dauphin de Nibali au général. Mais c'est un garçon qui a 35 ans. On pense aussi à Rodriguez, qui va tenter d'aller chercher le maillot à poids de meilleurs grimpeurs, mais derrière ces deux-là, c'est vrai qu'ils sont un peu au creux de la vague, le cyclisme espagnol.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Valverde n'est pas non plus de la première jeunesse. Alors c'est vrai qu'il est deuxième du classement général. Le restera-t-il ? Point d'interrogation. C'est vrai que de ce côté-ci des Pyrénées, on préférerait voir soit Jean-Christophe Perrault, soit Thibaut Pinot venir lui chipper la deuxième place. Mais le deuxième espagnol, si je regarde bien, se trouve quand même à la 22e position, c'est Nieve. Donc vous voyez la présence des Espagnols en tête de ce classement, eh bien n'existe plus. Nous ne sommes plus à l'époque du docteur Fuentes. Les choses ont repris leur place.
C'est la lutte antidopage qui explique, à ton avis, le fait que les Espagnols soient moins forts.
En grande partie.
Fred, tu confirmes ?
Pour pas dire en très grande partie.
Ouais. Oui, bien sûr, même s'il reste des moutons noirs, évidemment. Évidemment que c'est de notoriété que la lutte antidopage avait quelques temps de retard de l'autre côté des Pyrénées. Tout s'est à peu près mis à niveau maintenant, et c'est vrai que ça ne voltige plus, sauf peut-être parfois lorsque l'on vient sur le territoire espagnol, mais plutôt dans des courses de seconde zone, de second niveau en Espagne, au Portugal, où les contrôles sont moins pointus et où les coureurs de moins bon niveau prennent tous les risques. C'était la politique il y a encore quelques années, peur de rien. Ils n'ont rien à perdre, les coureurs amateurs, les coureurs de petit niveau, et ils étaient prêts à tout justement pour taper dans l'œil de recruteurs. On en a vu des météorites, des coureurs météores, des étoiles filantes, qu'ils soient basques ou non, qu'ils soient espagnols ou non, et c'est valable dans tous les pays. Mais prenez le cas d'Ezequiel Mosquera, dont on parlait l'autre jour en venant sur une étape. Voilà exactement un coureur qui symbolise les dérives du cyclisme espagnol et de la lutte antidopage espagnole. Mosquera, qui avait terminé deuxième du Tour d'Espagne remporté par Vincenzo Nibali en 2010, et qui est gentiment rentré dans le rang, pincé par la patrouille. C'est bien, ils ne font pas de bruit. On en a eu quelques-uns, on va pas tous les citer, mais si vous prenez Heras, Beloki, Astarloa, González de Galdeano, tout ça c'est de tête, on pourrait.
Cobos,
ouais, il y en a.
Kirino, non ?
Kirino, pas encore. Kirino, pas encore, mais.
Il est malin, Kirino.
Il a fait pipi hier.
Il passe entre les gouttes.
Hier, il a fait pipi. On aura les contrôles dans la journée, les résultats dans la journée, a priori.
Je pense qu'il va descendre de la moto.
Le temps que l'échantillon aille à Lausanne et revienne, on devrait avoir tout ça.
Surtout qu'il adore le bœuf, en plus. Et on sait qu'ici, ça peut être dangereux d'en manger.
Attention au clambutérol.
Très bien. Allez, 88 km 500 de l'arrivée. Fred, on va faire un nouveau top course. On va s'interrompre quelques instants et ensuite on parlera de nos jeunes Français qui font l'actualité tous les jours depuis le départ de ce Tour de France. Hier, malheureusement, un coup de moins bien pour Romain Bardet qui a perdu son maillot blanc, qui a perdu sa place sur le podium. Était-ce uniquement un jour sans, ou alors a-t-il montré ses limites ? On en parle dans un instant. En attendant, le top course avec Fred.
RMC Top Course.
À l'approche de la première des quatre difficultés de cette deuxième étape pyrénéenne aujourd'hui, toujours 8 hommes en tête, 8 hommes sortis dès le départ à Saint-Gaudens, 3 Français, Cyril Gauthier, Blel Kadri, Nicolas Hédet. Cyril Gauthier, qu'on avait déjà vu à l'avant de la course hier, le coureur de l'équipe Europcar, aujourd'hui accompagné de Yukiya Arashiro, son équipier de la formation Europcar, le japonais, également présent Jens Voigt, l'allemand, le coureur le plus âgé de ce peloton, bientôt 43 ans, Sergio Paulinho, le portugais de l'équipe Tinkoff Saxo, le hollandais Slakter et le champion de Suisse Martin Elmiger. Ces 8-là, malgré de sévères et appuyés relais, ne parviennent pas à prendre de champ. Le peloton, toujours dans la vallée, en file indienne, mené par les Katyusha de Joaquin Rodriguez espagnol, et qui vise le maillot à poids de meilleur grimpeur. Dernier pointage à 87 km de l'arrivée, 55 secondes d'avance pour ces 8 là, on est tout près du pied du col du Portillon.
Voilà, le col du Portillon, première difficulté de la journée, 8 km 300 à gravir avec une pente moyenne de 7,1%. Ce sera le premier col de la journée et ce sera dans quelques minutes sur RMC dans l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
L'intégral tour aujourd'hui, nous avons pris l'antenne à 14h car c'est une grande étape de montagne qui nous attend entre Saint-Gaudens et Saint-Lary, le plat d'Adet, 124 km 500 et 4 cols classés en première et hors catégorie. Le premier col de la journée, le col du Portillon, ne va pas tarder à être franchi. Enfin, en tous les cas, les premières rampes de ce col ne vont pas tarder à être abordées par les coureurs et notamment par les hommes de tête qui viennent de rentrer en Espagne. Chose promise, chose due. Eh bien, Georges Quirino sur la moto va nous faire le commentaire en espagnol. Giorgio, Jorge plutôt.
Podemos hacerlo, a ver si podemos hacerlo. Estamos con los 8 corredores y los 3 franceses. Hay un corredor de la formación de Europcar que se llama Cyril Gauthier. ¿Conoces a Cyril Gauthier, hombre?
Sí, muy bien.
Y tenemos también a Blair Cadry, que ha ganado una etapa de la Jerusalén Mundial. Y tenemos también a Nicolas Hédé, del equipo Cofidis. Este grupo que tiene ahora un minutito sobre el pelotón que está abajo. Vamos a ver si tenemos, vamos a ver si on aura ce groupe devant jusqu'au pied du Portillon. Voilà,
je confirme qu'il va falloir attendre le retour des échantillons de Lausanne et Châtenay-Malabry. Hein.
Il a une forme incroyable. Alors je sais pas si papa et maman qui écoutent la radio, évidemment qui écoutent Georges, sont d'accord et seront contents de son niveau d'espagnol. Me semble-t-il, il est encore pas mal. Hein.
Largement honorable, là, oui. Hein,
il va le bosser encore un peu.
Très bien, donc on est en Espagne, Georges, et on va repasser en France un peu plus tard. Fred, lorsqu'on aura franchi le col du Portillon qui sert de frontière entre les deux pays.
Oui, dans quelques instants. L'ascension de cette première difficulté de la journée, 8 km de montée à 7% de moyenne, c'est là-haut, au sommet, à près de 1300 mètres d'altitude, que l'on rebasculera en France. C'est un petit tour par l'Espagne, effectivement dans la province de Catalogne, en Lérida. C'est un scénario classique, hein, ce petit détour par l'Espagne. On l'a souvent fait sur le Tour de France, avant notamment cette arrivée au Plat d'Adet. Le Plat d'Adet qui a accueilli une dizaine de fois, me semble-t-il, le Tour de France. La dernière fois, c'était en 2005, si mes souvenirs sont bons. Saint-Lary-Soulan, Plat d'Adet, effectivement, avec la victoire de Georges Incapi. Effectivement, Georges Incapi qui s'était imposé, lui, le non-grimpeur, devant, je crois, Oscar Pereiro. Tout ça, c'est de mémoire. C'était une autre époque.
Georges Incapi en 2005.
Ouais. En 2001, Lance Armstrong s'était imposé en 93, Yenon Yaskula. Effectivement, on parlait de l'évolution du cyclisme mondial ces dernières années. A priori, des coureurs comme Incapi ou Armstrong n'émergeront pas aujourd'hui. Ici, au Plat d'Adet, au paradis, il paraît que les environs ici, les hauteurs de Saint-Lary étaient dans le brouillard ces dernières 48 heures et plus généralement la semaine qui vient de s'écouler. Et c'est ce matin seulement que le ciel s'est dégagé pour nous offrir un panorama incroyable, vert fluo quasiment, avec ce ciel bleu azur. Le Tour de France a été bien chanceux sur cette affaire.
Tiens, si vous voulez avoir des renseignements, si vous voulez savoir qui a gagné l'étape au Plat d'Adet en 1976, bon, on peut demander au druide, hein, puisqu'il était là en 76, il était plus coureur mais il était directeur sportif. Il y a plein de bouquins, il y a plein de sites internet. Le bouquin évidemment référence, c'est le Contour de nos amis Serge Lager et Claude Maignan, et le site internet de référence, on a vu d'ailleurs son créateur hier, c'est le Dico du Tour, et là vous avez toutes les infos, Fred, hein, c'est magnifique pour connaître les vainqueurs d'étapes de toutes les villes qui ont été parcourues par le Tour de France. Il y a même des petites vidéos, et puis évidemment le site référence, mais là c'est en matière de sport en général, c'est rmcsport.fr. d'ailleurs, si vous voulez tout connaître de l'actualité sportive de ce mercredi, eh bien allez-y sur rmcsport.fr. vous avez plein d'infos également sur le Tour de France. 80 km de l'arrivée et l'écart continue de ne pas grandir, il est à peu près stabilisé, l'écart entre les 8 hommes de tête et le peloton. Fred, nouveau top course.
RMC Top Course.
À 80 km de l'arrivée, quelques 5 km avant le début de l'ascension du col du Portillon, ils sont toujours 8 à l'avant, échappés depuis la sortie de Saint-Gaudens tout à l'heure. 8 coureurs dont 3 français, Nicolas Hédet, Blel Cadry et Cyril Gauthier, accompagné de son coéquipier Yukiya Arashiro, les deux pour la formation Europcar. Également présent, le champion de Suisse Martin Elmiger, le néerlandais Tom Hiltes Slachter, Sergio Paulinho, le portugais de l'équipe Team Cop Saxo, et là également. Et on n'oubliera pas le vétéran, bientôt 43 ans, l'Allemand Jens Voigt, qui est échappé aujourd'hui. Lui qui, au moment où cette échappée s'est formée, se permettait, malgré les efforts déployés pour creuser l'écart, se permettait de saluer la caméra, de saluer sa nombreuse famille. Rappelons que Jens Voigt, en plus d'être un cycliste très complet, est un reproducteur émérite. Hein. 6 enfants, Jens Voigt, a bientôt 43 ans. Normalement, il en a bientôt terminé.
Oui, a priori, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Hein, Lucho nous a quand même raconté hier qu'il avait, il s'était fait battre de justesse par Romain Bardet lorsqu'il avait repris la compétition il y a de cela quelques années, mais qu'il envisageait peut-être à terme de reprendre la compétition. Notre ami Lucho, 79 500 km, on va retourner sur la moto, toujours en Espagne avec Georges Quirino et Marco dans la plaine, mais on va bientôt aborder les premières rampes du col du Portillon.
On a perdu Georges.
10 km maintenant environ, on sera au pied du col du Portillon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois que vous m'entendez désormais.
J'ai vu.
Se rapproche toujours, on est sous le soleil sur des routes assez larges. Pour l'instant, ce début d'étape évidemment ne présente aucune difficulté dans la vallée et les 8 coureurs de tête qui continuent d'être une souris pour le gros chat peloton juste derrière et qui attend de venir les manger. On est vraiment en Espagne désormais. On voit, vous savez, à chaque fois qu'on va dans un pays étranger, c'est une chose importante pour les suiveurs du Tour. Quand on est en France, il y a les gendarmes qui encadrent la course. Et à chaque fois que vous allez à l'étranger, eh bien, ce sont les forces de l'ordre étrangères qui viennent s'occuper notamment de la route, hein, évidemment. Donc là, on a vu les motos de la Guardia Civile venir se mettre à notre niveau pour s'occuper de la course. Évidemment, il y a des drapeaux catalans sur les bords de la route, des drapeaux basques, des panneaux d'indication en espagnol. On a même vu des fans de Fernando Alonso. On est bien en Espagne depuis quelques instants, ça se voit. Évidemment, le groupe de tête. Attention au taureau, me fait signaler Marco. Effectivement, on vient de passer un panneau avec écrit attention au taureau.
Ah oui, ça y est, qu'en Espagne qu'on voit ce genre de choses.
Voilà. C'est ça.
Bon, rassure-moi, les motards de la Guardia Civile.
Qui fait la moto, le taureau.
Rassure-moi, les motards de la Guardia Civile n'ont pas de casque en forme de tricorne. Hein.
Non, pas du tout. On va pas aller jusque-là au niveau du cliché. Non. Par contre, tu sais que la coutume, c'est qu'on coupe l'oreille du taureau une fois que.
Ah oui, mais il n'y a pas que l'oreille. Il n'y a pas que l'oreille.
Marco,
hein.
Est bon aujourd'hui, j'ai peut-être. Si Marco est bon aujourd'hui sur la moto, j'ai peut-être lui couper l'oreille. On verra ça tout à l'heure. On approche la première difficulté du jour.
On va en rester aux oreilles, parce qu'autrement,
voilà.
Hein, avec Marco, ça risque.
Ne coupons pas la queue de Marco, elle peut toujours servir. Hein.
Ouais, c'est jamais.
Voilà.
Ça sert ce genre de choses.
Georges parlait du tour à l'étranger. On rappelle que le tour l'an prochain partira d'Utrecht aux Pays-Bas. On a appris, c'est une information de nos confrères de West France, que le tour, a priori, en 2016, partira de la Manche. Voilà qui fera plaisir au futur retraité Daniel Manjas, originaire de son fief de Saint-Martin-de-Landelle. Daniel et Hervé Manjas, également Hervé que l'on salue bien bas dans la voiture info du Tour de France. Lui qui égrène les informations sur le bord des routes tout au long des étapes.
Une vraie voilà qui nous promet une belle soirée dans une grange
je crois,
de la Manche.
Je crois qu'on aura encore une halte à faire en 2016. On sera là.
Voilà, où tout le monde, l'année dernière, on avait chanté dans la grange avec Hervé. 77 km de l'arrivée. Tiens, c'est l'heure des paris sur RMC.
Les paris RMC. Tour de France.
Allez, on accueille Benji comme tous les jours. Monsieur Benji, bonjour.
Salut, messieurs.
Alors, évidemment, le tour est joué, hein, c'est un peu comme ici, hein, le maillot jaune restera sur les épaules de notre ami Bourgui jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées, à moins d'un coup extraordinaire réalisé par nos parieurs. Les codes donc pour cette 17e étape.
Et le favori c'est Vincenzo Nibali, le Bourgui du peloton du Tour de France, il est à 3,25. Thibaut Pinot est à 3,80, c'est le deuxième favori. Rafał Majka ensuite à 5,40 et puis on retrouve plusieurs coureurs cotés à 15, les Espagnols Alejandro Valverde et Joaquim Rodriguez et Léopold Koenig. Je rappelle les pronos de ceux qui ne sont pas là. Bourgui a joué la logique. Nibali à 3,90. Lucho, lui, avait continué à faire confiance à Alejandro Valverde.
Très bien, Cyril. Tu as misé sur qui aujourd'hui pour savoir s'il va abandonner?
Nibali, hein.
Nibali, ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu risques.
Il a pris le départ de l'étape, c'est déjà une bonne nouvelle.
C'est déjà mieux que Rui Costa la veille, quoi.
Par rapport au jour précédent, effectivement, c'est mieux. Fred, est-ce que tu peux nous donner un petit vainqueur d'étape aujourd'hui?
Rafał Majka, avec son maillot à poids, de meilleur grimpeur. Effectivement, il y a des gros points à aller prendre ici à Pladadet. Il y a Paulinho, son équipier de la Tinkoff Saxo, dans l'échappée. Il devra lutter effectivement contre Joachim Rodriguez, qui est parti à la chasse au maillot à poids, apparemment, vu la physionomie de la course avec ses Katyusha qui roulent à l'avant du peloton. Mais Majka semble dans une meilleure forme que Purito Rodriguez. Donc une petite piécette sur le polonais de Tinkoff Saxo aujourd'hui.
Georges sur la moto, un petit favori.
Passage en Espagne, même si ça me semble compliqué, on voit les Katyusha à l'avant du peloton. Bah, je mettrai une petite pièce sur Purito Rodriguez, Joaquim Rodriguez, voilà, pour cette étape. Mais sans grande certitude.
Sans grande certitude, parce qu'il nous a un peu déçus depuis le début de ce Tour de France, même si on le sait, il ne visait pas le général. Mais on pensait qu'il serait un peu plus incisif. On rappelle que c'est quand même le numéro un mondial, Fred, Joaquim Rodriguez.
Oui, qui a terminé troisième du Tour l'an passé, qui est un spécialiste des arrivées en côte, notamment lorsqu'elles sont très pentues. Lui visait davantage le Tour d'Italie cette année, mais on rappelle qu'il avait quitté la course dès la première semaine du Giro. Il avait du coup rebasculé ses ambitions sur le Tour de France sans songer au classement général, parce que c'est très compliqué d'atteindre ce que les coureurs appellent un pic de forme à peine deux mois après un premier pic programmé. Donc c'était objectif victoire d'étape pour Ito Rodriguez, qui depuis le départ s'est un peu troué au niveau des victoires d'étape. Il a été offensif, c'est vrai, en deuxième semaine de Tour. Il s'est glissé dans pas mal d'échappées, il a porté le maillot à poids, mais pour l'instant il a toujours fait chou blanc en termes d'étape. Lui qui n'a remporté qu'une seule étape sur le Tour de France depuis ses débuts en carrière, c'était à Mende il y a quelques années.
Très bien, on va voir s'il en décroche une deuxième aujourd'hui. Joaquim Rodriguez, qui ne porte plus le maillot à poids de meilleur grimpeur, mais qui a bien l'intention d'aller le récupérer. Voilà Benji, on se retrouve tout à l'heure. Moi j'avais donné Romain Bardet pour la victoire d'étape. On va en parler de Romain Bardet dans un instant. Merci Benji.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, avant de s'interrompre quelques instants, Georges, ça y est, les échappés sont au pied du col du Portillon.
Ils y sont même, effectivement, dans cette première difficulté de la journée. Le col du Portillon, classé en première catégorie, un peu plus de 8 km d'ascension à 7% de pente moyenne. Il y a des drapeaux basques, des t-shirts orange sur le bord de la route. C'est-à-dire en hommage évidemment à cette équipe Euskaltel qui nous a régalé les années précédentes sur ces pentes pyrénéennes. Le soleil qui tape fort, ça sent le goudron là sur la montée de ce Portillon. Peut-être que la chaleur aura un rôle à jouer aujourd'hui. On verra ça plus tard.
Très bien, il est 14h42. Vous êtes sur RMC, l'intégral tour. L'ascension du col du Portillon, première des quatre difficultés du jour. C'est à vivre dans un instant sur RMC, l'intégral tour. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, intégral tour. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones, et à la maison sur leur box menu radio.
Allez, on va faire un nouveau point. Nous sommes à 74 km 500 de l'arrivée. Fred, on va donc faire un point complet de cette physionomie de course. Ça va être très très compliqué pour les 8 hommes de tête qui ne comptent plus grand-chose comme avance.
Ouais, on va voir ça dans quelques instants avec le début effectivement en ce moment même du col du Portillon. Tout va se jouer peut-être, le sort en tout cas de cette échappée va se jouer dans les kilomètres qui viennent, avec l'attitude de la tête de peloton, l'avant-garde de peloton, qui depuis le début de cette étape, depuis que ces 8 coureurs sont échappés, roulent en file indienne. Si les Katyusha se relèvent et décident de stopper la chasse, peut-être que cette échappée pourra enfin prendre du champ. Rappelons la composition des 8 hommes de tête. Il y a les 3 Français, Cyril Gauthier, Blaise Cadry et Nicolas Hédès. Cyril Gauthier, coureur de l'équipe Europcar, que l'on a vu échapper dans le final hier et qui a manqué de peu la victoire avec Thomas Vauclair hier à Bagnères-de-Luchon. Gauthier est accompagné de son coéquipier japonais, l'ancien champion du Japon, Yukiya Arashiro. Effectivement, c'est encore un attaquant d'hier qui est en train de sortir à l'avant du peloton dès les premières pentes du portillon. C'est José Serpa, le Colombien de l'équipe Lampre, qui vient effectuer un rapproché sur l'échappée. L'échappée qui est aussi composée de Jens Voigt, l'Allemand, de Sergio Paulinho, le Portugais, de Slakter, le Hollandais, et de Martin Elmiger. Serpa à l'avant de la course, qui à l'avant du peloton, qui est relayé par Joaquin Rodriguez. Décidément, Purito ne veut pas laisser passer les points qui seront distribués aujourd'hui sur les 4 difficultés de la journée.
Et oui, ça va être très compliqué pour les 8 échappés, car Rodriguez sonne la charge en tête de peloton. Il n'y a que 44 secondes d'écart entre les 8 hommes et l'avant-garde du peloton. Purito Rodriguez, qui n'a plus les points mais qui veut bien les récupérer. On va suivre ça dans quelques instants. Première difficulté du jour, le col du Portillon. À tout de suite.
Appelez RMC au 32-16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 17e étape du Tour de France au programme aujourd'hui, Saint-Gaudens, Saint-Lary, Plat d'Adé. 4 difficultés à franchir. La première est en train d'être escaladée par le peloton, et dès les premières rampes de ce col du Portillon, Fred, des attaques dans le peloton, pas pour les leaders, mais pour ceux qui ont envie d'aller chercher les points de la montagne. Nouveau top course.
RMC, top course.
Effectivement, 72 km dès l'arrivée, le pied du col du Portillon a été incendié par Joaquin Rodriguez, l'Espagnol, ancien porteur du maillot à poids, troisième du général l'an passé, qui est aux oubliettes aujourd'hui au classement général. Est parti à la conquête peut-être du maillot à poids. Il a effectué un rapproché sur les 8 hommes de tête. Rodriguez, qui est parti notamment avec Michael Chérel, un coéquipier de Romain Bardet, et Jean-Christophe Perrault chez AG2R La Mondiale. Il y avait également là Frank Schleck, le champion du Luxembourg, qui a vécu une journée très difficile. Ces trois-là viennent de rattraper l'échappée matinale, où on trouvait notamment Cyril Gauthier, Jens Voigt, Arashiro, Blel Kadri ou Nicolas Hédet. Et Rafał Majka, le porteur du maillot à poids, en voyant Rodriguez venir se greffer à la tête de course, et lui aussi sorti à son tour. Il a, semble-t-il, été accompagné par Nicolas Roche dans cette grosse échappée. Maintenant, on va répertorier les hommes de tête, mais il y en a partout.
Effectivement, en fait, il y en a partout dans la montagne, dans ces premières rampes de ce col du Portillon. On va essayer de faire un point avec la moto RMC qui se trouve à l'avant de la course. Georges.
Oui, devant ce groupe de tête, effectivement, ils sont une dizaine désormais. On a vu Joaquim Rodriguez prendre position à l'avant. Rafał Majka est évidemment avec le maillot à poids sur les épaules, le rival qui est revenu également. Il me semble également que c'est Nicolas Roche avec son maillot fluo de la Tinkoff qui est rentré. Mais ce groupe d'une dizaine d'unités ne compte vraiment que quelques mètres d'avance sur le peloton, emmené par les Astana. On a vu Vincenzo Nibali avec son maillot jaune au niveau de la troisième position de sous le peloton. Donc vraiment, l'écart est très faible pour l'instant entre la tête de course et le peloton.
Voilà, écart très faible en tous les cas, Cyril, on s'y attendait, c'est une étape où la bagarre va être permanente jusqu'à l'arrivée tout à l'heure à Plat d'Adé.
Là, ça me fait un petit peu peur, la façon dont est escaladé ce col du Portillon, qui n'est pas un col mineur. Va y avoir des dégâts par obligation, parce que ça monte très très vite, les accélérations. Il y avait d'abord cette échappée partie depuis le départ à 8, le rythme du peloton n'a pas baissé derrière ces 8 hommes de tête, ce qui fait qu'on est arrivé quand même, on est arrivé à fond au pied du col, et immédiatement Purito a mis le feu, Majka a répondu, et derrière, eh bien le rythme est toujours très élevé, puisque vous avez entre autres Boke Mollema qui est revenu sur ce premier groupe, et que les équipiers de Nibali sont obligés d'assurer un tempo quand même très élevé. Je ne sais pas comment on va faire pour monter la dernière ascension.
Hein. Ah oui, il risque d'y avoir des jours sans pour certains. Il fait un petit peu plus chaud qu'hier. Bon, les conditions ne sont pas extrêmes non plus, hein, Cyril. A priori, ça devrait aller. Il n'y a pas de canicule aujourd'hui dans les Pyrénées.
Sur le plan de la température, ouais, ce sont de bonnes conditions de course. Les coureurs préfèrent vraisemblablement ces températures que d'avoir aujourd'hui la pluie et le froid.
Voilà. Est-ce que tu as remarqué des signes de faiblesse dans le groupe maillot jaune parmi les favoris de ce Tour de France?
Pour l'instant, non, puisqu'ils sont un petit peu à l'arrière de Nibali. On voit bien placer l'ensemble des favoris. Heureusement qu'il n'y en a pas en difficulté, parce que ça serait 40 minutes, là. Hein.
Ouais.
Et la caméra ne peut pas aller jusqu'à la 20e ou 30e position au milieu du peloton. Donc on ne peut voir pour l'instant que tous ceux qui mettent des banderilles là en tête de peloton, et surtout avec Rodriguez, maintenant bien marqué à la culotte par Machka. Rappelez-vous, ils ont un point d'écart tous les deux.
Et justement, Joachim Rodriguez vient d'attaquer à 71 km de l'arrivée dans le final déjà de ce Portillon pour aller chercher les points de ce col classé en première catégorie, pris immédiatement en chasse, marqué effectivement par Rafał Machka. Le duel de la journée et le duel concernant le maillot de la montagne. Le leader de ce classement et son dauphin sont en train de s'expliquer à l'avant de la course. Ils viennent de prendre quelques longueurs d'avance sur la tête de course. Oui, le groupe maillot jaune, le peloton maillot jaune avec Nibali et les principaux Français concernés par le classement général ne pointe qu'à 15 secondes. Situation très tendue. Cyril, si tu peux nous faire un calcul approximatif des délais ici au Plat d'Adet sur cette étape très courte avec 4 cols, ce sera intéressant parce qu'il risque effectivement d'y avoir de la casse ce soir.
Oui, ça n'est pas possible pour l'instant car nous sommes sur la première ascension de col et que les délais sont calculés en pourcentage sur la moyenne à l'arrivée. Alors comme nous avons une moyenne qui n'a été faite que sur le plat et qui doit être au-dessus des 40 km/h,
50,2 km/h,
donc ça n'est pas représentatif de ce que nous aurons à l'arrivée, sachant qu'on a pratiquement encore plus de 35 km d'ascension. Donc pour l'instant on n'a pas la capacité de calculer les délais par rapport à la moyenne. On pourra le faire, je pense, lorsque nous arriverons vers Londeville.
Ah, et ça continue de sortir du peloton. On a vu il y a quelques instants Pierre Roland, le leader de la formation Europcar, sortir à son tour et partir à la recherche du groupe d'échappés devant. Fred, il y a beaucoup de monde et beaucoup de tentatives en ce moment.
Oui, avec notamment le Colombien Serpa qui est venu se greffer à la tête de course, lui qui était déjà échappé hier. Il y a là le leader de l'équipe Belkin, Bok Mollema, 10e du classement général, et donc à l'instant, au même titre que Jurgen van den Broek, le leader de l'équipe Lotto Bellisol, Pierre Roland vient d'accélérer. Il s'agit là de belles opportunités pour les coureurs qui veulent se mettre en évidence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'échappé n'est qu'à 20 secondes devant le peloton maillot jaune. Ce sont presque des sauts de puce pour ces coureurs capables de sortir à l'injection avec un coup de giclette, comme disent les coureurs. Du coup, Pierre Roland a bien raison de vouloir se mêler au groupe de 20 qui est en train d'ouvrir la route, un groupe où l'on retrouve les deux leaders du classement de la montagne, Joaquin Rodriguez et Rafał Majka. Il y a là également les Français Michael Chérel et Blel Kadri, Cyril Gauthier également présent, Nicolas Hédet et puis Frank Schleck accompagné de son équipier de l'équipe Trek, Jens Voigt. Notons la présence donc des deux Lampre, Durasek et Serpa. Bok Mollema est le mieux placé au général, lui qui était à 11 minutes de Vincenzo Nibali ce matin. Le groupe maillot jaune, le groupe Nibali est à 20 secondes.
Ça va être dur, hein, Cyril, de faire l'écart parce que le train imprimé par la formation Astana est tout de même assez important et on ne voit pas les écarts se creuser, même si là...
Non, mais ils ne peuvent pas se creuser parce que tout le monde monte à bloc, à l'exception du groupe maillot jaune qui essaye. Les Astana, ils essayent de maîtriser le rythme parce que vous avez pu voir dans l'étape d'hier que Nibali s'est retrouvé seul très tôt. Enfin, dans la dernière ascension, il était seul. Il aimerait bien garder quelques équipiers avec lui. Or, pour l'instant, il essaye, la course est telle qu'il est obligé de demander à ses équipiers de rouler quand même suffisamment vite en essayant de laisser partir les coups. Il voudrait bien laisser partir les coups. Mais dès qu'ils ralentissent un peu, ça recompte. Vous avez Roland qui a attaqué, vous avez Van den Broek. Donc, cette montée, on a l'impression que l'arrivée se situe au sommet.
Alors qu'il y aura encore près de 60 km à parcourir avant l'arrivée de cette 17e étape. On va se régaler aujourd'hui tout au long de cette étape, mais je ne suis pas sûr que les coureurs vont se régaler. En tous les cas, ceux qui sont dans un jour sans, il ne faudra surtout pas, Fred, aujourd'hui, connaître le jour sans parce que ça, l'addition pourrait être très lourde.
C'est peut-être même les délais pour ceux, les non-grimpeurs qui vont être dans un jour sans. Je suis pas sûr qu'ils rentrent pas à la maison ce soir.
Pour tous les sprinteurs, on va suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à l'arrière.
Regardez, Nibali n'a plus que deux équipiers
équipiers autour
déjà,
de lui.
Déjà. Plus que deux équipiers pour Nibali.
Alors qu'il y a presque toute l'équipe Movistar.
Ouais, la Movistar de Valverde. On ne voit pas trop les coureurs de la FDJ.fr.
Non, faut qu'ils restent au chaud. Ils sont
en troisième rideau, on va dire, derrière effectivement les Astana et les Movistar. Pour l'instant, au même titre que Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet, Thibaut Pinot et ses équipiers observent les débats et tentent de suivre le rythme parce que le rythme est très élevé. Effectivement, devant, on vous rappelle la présence de coureurs comme Mollema, comme Joaquin Rodriguez, Rafał Majka, Frank Schleck, même si le champion du Luxembourg est en train de craquer. Nicolas Roche, l'Irlandais, est également là. L'excellent grimpeur italien Alessandro De Marchi, le duo Serpa-Durasek, et puis les échappés de la première heure ont bien du mal à suivre.
Fred, pas de répit, ça ressort en tête de peloton parce que les Astana avaient trop ralenti.
C'est fou, et effectivement, on est en train de se poser des questions. On voit que les équipiers d'une même formation se concertent, se consultent. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? À l'instant, De Marchi est en train d'ouvrir la route avec dans sa roue Nieve, Rodriguez et Mollema.
Important, Majka a sauté.
Oui, Majka, ouais. Majka ne suit pas Joaquin Rodriguez, important.
Et alors qu'il était dans la roue.
Alors, la tête de course, il me semble que c'est Nieve, le basque de l'équipe Sky, Rodriguez de la Katyusha, Mollema est là également, Alessandro De Marchi, Durasek, le tchèque de l'équipe Lampre, Nicolas Roche est là pour la formation Tinkoff Saxo. Voilà la tête de course qui ne compte qu'une quinzaine de secondes sur des coureurs intercalés, parmi lesquels Blaise Cadry, Cyril Gauthier, Jens Voigt, Frank Schleck ou Pierre Roland. Et le groupe maillot jaune de Nibali, le peloton, ou du moins ce qu'il en reste, est relégué à 42 secondes. On va basculer
dans 2 km,
au col du Portillon, dans 2 km exactement.
Voilà, dans 2 km, le passage au col du Portillon. On va essayer de répertorier tous ceux qui vont passer les uns après les autres, mais il y a effectivement beaucoup de monde qui est sorti du peloton à la recherche des échappés. L'écart ne grandit pas, mais il est quand même de 40 secondes désormais, à 69 km de l'arrivée. Et Nibali ne s'affole pas, mais effectivement, il n'est plus entouré, Cyril, que de deux équipiers. Il va falloir essayer de les conserver le plus longtemps possible, parce que tout à l'heure, certains grimpeurs dans les dernières ascensions du jour risquent d'essayer de mettre à mal la domination de l'Italien.
Et oui, dans une course tout peut se passer, mais ensuite eh bien il aura le jeu facile, ce qu'il a d'ailleurs admirablement fait hier, c'est-à-dire que à un moment il a Valverde, il avait Pinot qui était là, et puis Jean-Christophe Perrault. Donc après il se met en marquage individuel sur le deuxième, le troisième et le quatrième du classement général, et puis après que les échappés prennent 10 minutes, ça à un moment ça n'est plus son problème quoi.
On va retrouver la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve à l'avant de la course, devant les hommes échappés, qui se rapprochent petit à petit de ce col du Portillon. Georges.
Exactement, on est à un peu plus de 2 km du sommet désormais. Les pourcentages sont un peu importants. Après un léger replat, on est sur des pourcentages à 7% environ de déclivité. Et juste derrière nous, oui, ce groupe où l'on voit le coureur de l'équipe Sky, notamment à l'avant, c'est Lopez Garcia, hein, l'Espagnol qui est là. C'est l'autre Espagnol de l'équipe Sky qui est présent. Mais c'est vrai que ça monte assez vite pour l'instant dans ce groupe. On en voit un petit peu de partout. Derrière, c'est difficile d'avoir une vision globale de cette ascension, mais c'est vrai que le rythme imposé sur les premiers lacets de ce col du Portillon, alors qu'on se rapproche du sommet, est à remarquer. En tous les cas, on voit Rodriguez qui se positionne dans les premières positions de ce groupe. Évidemment, il faut aller chercher les points pour le Catalan dans quelques instants. Les coureurs qui vont voir l'indication indiquant le dernier kilomètre après un lacet à droite.
6 coureurs à l'avant de la course dans ce dernier kilomètre bientôt du col du Portillon. Les deux Espagnols, David Lopez de l'équipe Sky et Joaquin Rodriguez de la Katyusha, l'Irlandais Nicolas Roche pour la Tinkoff Saxo, l'Italien Alessandro De Marchi pour l'équipe Cannondale, Bock Mollema, attention à lui, classé 10e du général ce matin à 11 minutes 30 de Vincenzo Nibali, et puis le Croate Durasek de l'équipe Lampre à 27 secondes, un groupe de 20 coureurs avec Errada et Izagir pour l'équipe Movistar, deux coureurs de Tinkoff, Majka et Paulinho, Fulsang le coéquipier de Nibali, Trentin chez Omega Pharma, les Français Chérel, Kadri et Dumoulin, également présent Amael Moinard côté tricolore, Jürgen Vandenbroek est là également, le Belge, Pierre Roland, le leader de l'équipe Europe Car, est dans ce groupe intercalé, tout comme Cyril Gauthier, son équipier de l'équipe Europe Car, également présent, Franck Schleck, le champion du Luxembourg, Ren Taramae, Nicolas Hédé, un autre Français de l'équipe Cofidis, ou le champion de Suisse Martin Helmiger. Le groupe maillot jaune à 1,5 km du sommet est relégué à 50 secondes de la tête de course, c'est-à-dire à 30 secondes du groupe de contre-attaque composé de 20 coureurs.
Dans le dernier kilomètre d'ascension de ce col du Portillon, on rappelle qu'il y aura encore 3 autres ascensions avant l'arrivée tout à l'heure à Platané. La grande bagarre a donc débuté dès à présent, peut-être pas encore pour le classement général, mais en tous les cas pour le classement du meilleur grimpeur Joachim Rodriguez, qui a dynamité tout ça. Joachim Rodriguez, Cyril, qui n'a plus d'adversaire puisque Machka a été lâché. Est-ce que, à ton avis, il va se relever au passage du Portillon, ou au contraire, va-t-il tenter d'aller jusqu'au bout et pourquoi pas de remporter cette étape, en tous les cas de faire le point de points pour le maillot
Il n'a absolument aucun intérêt à se relever au sommet du col. Il doit plonger dans la descente pour aller rechercher des points au col de Persourde, parce que la dernière ascension, je vous l'ai signalé tout à l'heure, les points sont doublés, c'est-à-dire qu'il y a 50 points à l'arrivée. Donc il y a Nibali qui est toujours si Nibali remporte l'étape, il va encore prendre 50 points. Donc il va se retrouver, rappelez-vous, Nibali en haut de la planche des Belles-Filles, il s'est retrouvé avec le maillot de leader. Donc Nibali est toujours dangereux s'il allait gagner l'étape.
Ok, en tous les
donc,
cas.
Donc il faut aller chercher les points sur le premier, les points sur le deuxième et les points sur le troisième. La victoire d'étape, c'est plus son problème.
On rappelle que l'écart n'est pas très important.
Hein, Nibali, il est à 3 points.
Hein. Oui, non, pour le classement du meilleur grimpeur. Eh oui. Mais là, je parle de l'écart entre le groupe Rodriguez et le groupe maillot jaune, même si cet écart a quand même tendance à grandir un petit peu, Fred. 54 oui. secondes de dernier pointage.
54 secondes pour les hommes de tête. On rappelle qu'il y a là l'Espagnol Joaquin Rodriguez avec l'Irlandais Nicolas Roche, l'Italien Alessandro De Marchi, également présent l'Espagnol David Lopez pour l'équipe Sky. Bock Mollema, le Hollandais, dixième du classement général, est dans le coup également, au même titre que le Croate Durasek. Un groupe de 20 coureurs est intercalé. Et attention, information importante, dans ce groupe de 20 coureurs à 25 secondes, il y a tout de même 3 coureurs de l'équipe Movistar, c'est-à-dire des équipiers d'Alejandro Valverde, deuxième du classement général. Il y a là Errada Izaguirre et Vince Conti. En ce moment même, passage au sommet de Joaquin
Rodriguez. Impressionnant, Cyril. Il a une... sa facilité à sprinter comme ça dans les arrivées au sommet, il est impressionnant. Personne ne peut prendre sa roue. Hein.
Ah, c'est le plus fort, c'est le plus fort. Il a un punch absolument extraordinaire et il est capable de tenir cette allure pratiquement pendant 3 minutes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a une puissance en aérobie qui est fantastique.
Alors, on a vu Nicolas Roche tenter de s'accrocher, on a vu Demarquis également essayer de surprendre Rodriguez, mais ils ont vite renoncé lorsqu'ils ont vu Pulito accélérer.
Ah oui, non mais là vous avalez votre bulletin de naissance. Oui,
combien sont-ils à s'être brûlé les ailes à suivre Joachim Rodriguez dans les pentes les plus prononcées de tous les cols d'Europe? Joachim Rodriguez, qu'il ne faut pas suivre, c'est sûr, lors d'un passage au sommet, s'il est décidé à aller récolter les points. On est dans la descente du Portillon et on rappelle que les 6 hommes de tête comptent 27 secondes sur un groupe de 16 coureurs désormais, où on trouve 3 coureurs de l'équipe Movistar, 2 coéquipiers de l'équipe BNC, Moinard et Peter Velit, 2 coureurs de l'équipe Europe Car, Pierre Roland et Yukiya Arashiro, également présent Cyril Gauthier, ça fait 3 coureurs de l'équipe Europe Car. Franck Schleck est dans le coup également, au même titre que Blaise Kadri et Samuel Dumoulin, les coéquipiers de la formation AG2R La Mondiale. Le peloton maillot jaune est à 1,05.
Voilà, le peloton maillot jaune qui a franchi à l'instant même le sommet du Portillon avec un retard d'1,17. 1,17 et il y a eu une chute dans le peloton. Une chute qui est... Oh là là, mais bagarre entre deux coureurs. Avec un spectateur. Je croyais que c'était un coureur de la formation Movistar. Qui l'a fait tomber le coureur.
Non, c'est un spectateur qui est venu au milieu du peloton. Ah, regardez.
Oui. C'est un coureur de l'équipe.
C'est un soigneur. C'est pas un soigneur.
Non. C'est un spectateur qui.
C'est peut-être un soigneur.
Et fan de l'équipe Movistar, ou alors
c'est un soigneur.
C'est un soigneur de l'équipe Movistar.
Oui, qui a voulu passer un bidon au milieu du peloton, voilà.
Exactement. Et... il s'est avancé dans le peloton et du coup, un coureur de l'équipe Orica Green Edge est allé au sol. Il s'agit
d'ailleurs, après, il va le pousser.
L'Australien Luke Durbridge qui a été poussé par par ce même soigneur de l'équipe Movistar, les Movistar qui sont trois dans la contre-attaque et qui font l'actualité également dans le groupe maillot jaune. Bon, tout va pour le mieux, mais la réaction de Luke Durbridge au sol,
elle est gentille, sa réaction, parce que
sanguine sur le coup mais gentille au final.
Non, elle est plutôt gentille parce qu'il aurait pris une droite, il l'avait bien mérité.
Si c'était le druide, si le druide était tombé,
imaginez que ce soit
coup de boule immédiat.
Imaginez que ce soit Nasser Bouani.
Très bien, 64 km de l'arrivée, le peloton qui est donc pointé avec un retard d'une 15 environ sur Rodriguez. Nous sommes dans la descente du col du Portillon. Il reste encore trois difficultés avant l'arrivée. Tout à l'heure à plat d'année, on va se quitter quelques instants. Les infos de 15h qui ont été décalées pour permettre de suivre le passage à ce col. Et on se retrouve juste après ces infos. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.